Culture plurielle, et si on en parlait ? Un magazine hebdomadaire conçu et animé par Malik Alafer sur Adinal, réalisé par Sofiane Saouli.
Amis auditeurs, bonjour, soit Adinal, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Abdou Belghat. Monsieur Abdou Belghat, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va. Qui est Monsieur Abdou Belghat? Vous êtes né donc en 1900. Vous êtes parti en 1967. Vous quittez donc Skikda pour Paris. Un séjour en cité de transit et aussi une licence de sociologie obtenue à Paris 8. Vous faites votre entrée en tourisme en 1972 à la bonne école du GO du Club Med, avant d'intégrer l'hôtel Plaza Athénée comme contrôleur de gestion. Vous devenez donc contrôleur général, ainsi que des hôtels de la Trémaille et de la Blanchisserie dans le groupe Trust House Fort. En 1978, vous obtenez successivement un DES de formation et intervention dans les organisations, puis un DEA en relations professionnelles et gestion du personnel, prélude à une thèse en sciences de gestion et d'organisation à Paris Dauphine. En 1982, après un an comme investisseur et DG d'un chantier de centre international d'animation touristique en Tunisie, vous créez l'agence pour VIP, Voyage du Monde, puis vous achetez l'hôtel Excelsior. C'est deux étoiles, hein, 33 chambres à Paris, un séjour de tous les GO du Club Med. Parallèlement, vous êtes chargé de cours à
à Limy
et à Glion, c'est ça ?
C'est ça, Glion.
Vous adhérez à la FEST en 1985. En 1990, encouragé par un pôle bancaire d'État, bailleur du projet, vous vous lancez dans une difficile mais passionnante aventure. Vous achetez le château des Chameliers
en
Châtelier. Je confonds avec le sud. Peut-être un jour vous achèterez un château
là,
Arsour, ouais. Dans notre sud. Donc château des Châteliers à Anjou, et le transforme en hôtel de luxe. Le Club Med présent à hauteur de 10% dans le capital. Vous concevez la première de ces 50 villas d'Europe dont les dirigeants sont formés par vous. Abdou Belghat, la crise immobilière puis financière de 1993 allait bloquer les concours financiers parapublics attendus sur l'opération. Alors l'année 97, vous changez quelque peu de registre, mais pas d'enthousiasme, et vous intégrez un groupe international de communication par le sport qui vous permet d'assouvir ou d'aggraver votre passion invétérée pour le football. Un parcours intéressant que beaucoup d'auditeurs enviraient. On ne va pas revenir effectivement sur la difficulté avant d'arriver à tout cela. Vous avez dû beaucoup galérer, Monsieur Abdou Belghat. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque vous êtes venu dans le cadre de l'organisation du premier marathon. Et quelle a été votre contribution ?
Notre contribution a été simple. D'ailleurs, tout d'abord, un grand bonjour à tous nos auditrices et auditeurs. Et bonne fête à la veille de ce fameux grand Aïd El Kébir. Lorsque nous avons été approchés par notre représentation générale ici à Alger, le Sporting Management, ils nous avaient fait état du projet du marathon de Janet. Nous avons réfléchi ensemble et nous avons trouvé à travers cette initiative privée un ensemble de paramètres qui pouvaient nous conduire, 1, à encourager, 2, à soutenir et 3, à accompagner. Je l'ai proposé à l'Association française des experts scientifiques du tourisme, pour la simple unique raison, c'est que nous sommes sur un site universel, et sans l'appui, le soutien, l'accompagnement des experts internationaux, il nous était difficile de lui donner une connotation de marathon international. Le deuxième point, c'est qu'au niveau de notre agence de communication internationale, nous savons par expérience, parce que la communication est un métier qui ne s'improvise pas, que pour apporter la contribution pour mon pays, pour ce pays, qui n'a pas d'image, aucune image en matière touristique, il fallait trouver à travers ce support le moyen de faire connaître, de sensibiliser et pourquoi pas de déclencher un déclic de prise de conscience dans un premier temps pour nous Algériens et dans un deuxième temps pour l'image internationale. Donc nous avons dit ok, nous nous engageons, sachant pertinemment que c'était aux gens sur place. Nous nous sommes déplacés au mois de décembre à Janet,
oui,
avec les initiateurs du projet. Et à partir de ce moment-là, nous avons vu avec les Targhis. Et quand les Targhis nous ont donné la garantie, je dis bien la garantie,
oui,
car pour nous experts, rien ne peut se faire sans les autochtones.
Oui.
Nous avons compris qu'à travers le message, la volonté, la détermination de ce peuple riche,
oui,
et d'une grande culture, et comme vous le dites si bien, les vrais maîtres qui préservent,
oui,
ce merveilleux patrimoine.
Des vrais conservateurs naturels.
Ce sont les vrais conservateurs naturels, et puis avec quelle intelligence, nous avons dit, c'est notre devoir, donc c'était également surtout mon devoir, d'aller propager la bonne parole, afin que ce marathon, comme support, je dis bien comme support, ce n'est qu'un moyen de faire avancer les choses. La conclusion, il fallait y aller. Et c'est la raison pour laquelle, quand Louatane m'a fait l'interview, j'avais pris cet engagement en disant ce marathon de Janet sera un succès. Et il a été un succès.
The bluebird in my hand, as it trembled with the fear of man. When it fell from the sky, when it lost its way, so I picked it up and I walked away.
Actuellement directeur de BF Communication Internationale à Paris, à celui du directeur des relations publiques du groupe Darmon. Si je me trompe, hein, vous m'arrêtez. Hein.
Oui, très bien. Parce que
je
fais juste un petit rectificatif. J'ai eu la chance de rentrer en 97 aux côtés du groupe Jean-Claude Darmon, aux côtés de son président que je connaissais depuis une vingtaine d'années.
Alors qui c'est d'abord ce groupe Darmon?
C'est le leader européen et africain de la communication par le sport. C'est le groupe qui s'occupe de la Fédération française de football, de l'équipe de France championne du monde, championne d'Europe, de la Fédération française de tennis, de la Fédération française de rugby. Et sur le plan africain, c'est toute la Confédération africaine est pratiquement en exclusivité avec le groupe Jean-Claude Darmon, ce qui permet de dire que quand on a fait ce parcours dans cette boîte de communication internationale par le sport, je pense que c'est le cœur du lobbying. Et quand on est dans le cœur du lobbying, il nous appartient de prendre ce qu'il faut prendre et servir l'intérêt général d'un pays qui est le nôtre.
Alors, on ne va pas parler de sport, parce que l'émission On laisse à César ce qui lui appartient. On va parler de tourisme avec vous. Mais pour l'association La Feste, alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu son historique? Elle existe depuis maintenant pas mal d'années. Quel est son rôle et quelles sont ses prérogatives?
Vous savez, le tourisme aujourd'hui est la première industrie au monde. Je pense que pour nos auditrices et nos auditeurs, il est important que l'on sache dans quel cadre, dans quel cours des grands, on peut se positionner. Et vous allez voir après pourquoi il est indispensable pour l'Algérie, si elle veut se positionner et se développer, de passer par des rouages qui nous paraissent, nous, indispensables. Le tourisme, aujourd'hui dans le monde, est la première activité.
Non, mais vous me dites l'historique de La Feste,
on revient sur La Feste. Allez-y. Mais pour vous dire un petit peu l'importance de ce type d'association d'experts et le poids et leur lobbying qui les amène à conduire et à orienter des politiques stratégiques. Le tourisme représente 650 millions de visiteurs enregistrés en 1999, avec un chiffre d'affaires de 453 milliards de dollars. C'est énorme.
Oui. Vous parlez dans le monde ou alors...
Dans le monde. 453 milliards de dollars, soit plus que les exportations mondiales du pétrole, objet qui fait l'intérêt de pas mal de choses. L'Europe représente à peu près 60% du tourisme international, avec 392,4 millions de touristes. Et environ 52% des recettes touristiques. Ça, c'est l'Europe. La France est la première destination au monde avec 70 millions de visiteurs étrangers.
Oui.
La Feste est née en 1957. Vous voyez un petit peu le poids de la crédibilité de cette institution. Elle est née en 1957, elle a été animée par de très grands personnages. Et aujourd'hui, cette association, qui est une association au service du développement du tourisme, c'est une association au service des acteurs du secteur touristique. C'est une association qui représente un réseau unique d'experts et de professionnels du tourisme. Enfin, et surtout, c'est une association présente et active.
Oui.
C'est-à-dire que dans tous les lobbies, que ce soit UNESCO, Organisation mondiale du tourisme, dans tous, Association internationale des experts scientifiques du tourisme, les nations, La Feste a un poids d'écoute et d'intervention.
Elle est composée de nationaux ou alors...
La Feste s'honore à aujourd'hui d'avoir su réunir, grâce à une politique minutieuse de sélection de candidatures. Il n'est pas question de se voir parachuter telle ou telle personne, donc on est très vigilant. Près de 200 membres qui comptent parmi les personnalités les plus éminentes du tourisme français, dans les différentes branches qui le constituent, c'est-à-dire tour operating, agences de voyage, hôtellerie, immobilier de loisirs, tourisme social, organismes nationaux, locaux et régionaux de tourisme, bureaux d'études, presse spécialisée, organismes de recherche, instituts d'enseignement supérieur et professionnel. Cela veut dire que lorsqu'on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que tous les responsables, tous ces experts qui font partie de notre association, on trouve les gens du groupe Accor. L'Algérie est fière d'avoir aujourd'hui un de ses représentants qui est le directeur général du Mercure Grand Hôtel du groupe Accor.
Oui.
C'est grâce à ces relais que l'on peut aider à faire la promotion ou à la recherche de l'image d'un pays. Le Club Méditerranée, Holiday Inn, des instituts de formation, on a parlé de l'IMI, Cornell ESSEC, Howards and Howards, enfin, bref, c'est un ensemble de réseaux. Ce qui fait que la France, si elle est leader en matière de tourisme mondial, ce n'est pas un hasard.
Qu'elle a le taux le plus élevé de touristes qui arrivent chez elle.
Mais bien sûr.
Ah, ça,
si aujourd'hui la France est championne du monde de football, c'est parce que tout le monde le reconnaît.
C'est parce qu'il y a Zizou.
D'une part, il y a Zizou, mais parce que les meilleurs centres de formation se sont trouvés en France. Donc, au-delà donc, La Feste, ce qui est bien, c'est que il y a eu une forte contribution. Je suis fier et honoré d'être l'un des vice-présidents de La Feste, actif sur le terrain. Et le fait que...
Vous êtes le seul Algérien dans
Je suis le seul Algérien. De toute façon,
cette
c'est pas compliqué. Avec beaucoup d'humilité, je suis le seul arabo-musulmans africains dans le concert des experts scientifiques du tourisme. Donc il n'y en a pas 50 000, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Il peut y en avoir d'autres dans la mesure où on leur donne les outils pour le faire. Et la grande nouvelle, et c'est une immense nouvelle, c'est que l'Algérie va se doter de la première association, et vous pouvez à mon avis le dire plus tard, concernant les experts.
Justement, la FEST, est-ce qu'il y a d'autres, je vais peut-être dire une bêtise, autres associations similaires à la FEST dans le monde entier, ou alors
Oui. Vous savez, il faut être des pays très avancés pour être dotés de structures aussi efficaces, pour être dotés de ce qu'on appelle le lobbying. Nous avons l'Espagne, nous avons l'Italie, l'Europe du Nord est également très représentée par les Allemands, par les Suisses, par les Suédois, les Américains. Donc, nous, ce qui nous intéresse, et vous devez le constater par rapport aux pays que je viens de citer, les pays du tiers-monde ou les pays émergents sont pratiquement exclus. Même quand des pays très avancés sur le plan touristique, comme par exemple l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, ne sont pas dotés d'associations des experts scientifiques du tourisme. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si malheureusement ces pays qui ont une vocation, compte tenu de l'importance économique, de l'importance sociale, de l'importance éducative que représente le tourisme, si elles ne sont pas dotées des outils de réflexion, si elles n'ont pas accès au réseau, ce qu'on appelle vu d'une manière péjorative le lobbying, eh ben vos idées n'avanceront jamais.
Une nouvelle association, justement, elle est la première du genre dans un pays, comme vous dites, donc arabo-musulman et aussi africain, parce que cette association des experts et scientifiques du tourisme, elle voit le jour. Ça a eu lieu donc au cours d'une rencontre à l'hôtel Mercure d'Alger. Donc cette nouvelle association est l'initiative d'une douzaine de fondateurs spécialistes dans le tourisme. La présence du vice-président et d'un membre du conseil d'administration de l'Association française des experts scientifiques du tourisme a été fortement appréciée au cours de cette rencontre. Ça veut dire que, pour la première fois en Algérie, il va y avoir cette association.
Oui.
Ben voilà. Alors,
vous venez d'annoncer un scoop.
Oui.
Ceci dit,
elle est dotée de membres, de combien donc une douzaine de membres.
Le cadre algérien, sur le plan associatif, exige un certain quota de personnes, c'est-à-dire une quinzaine. Les textes sont prêts, donc l'AESTA, l'Association algérienne des experts scientifiques du tourisme, va remettre dans le cadre de procédures administratives sa demande, son objet clairement défini. La FEST, donc l'association française.
Donc elle est accréditée par qui ?
C'est le ministère. Le ministère du tourisme. Toute association qui se crée ici, elle est sujette à l'approbation. C'est une association scientifique, culturelle, et qui apporte un développement, une promotion pour un pays. Donc on ne peut qu'applaudir et encourager ce type d'initiative. C'est venu parce que, évidemment, on ne voit pas une association algérienne des experts scientifiques du tourisme se lancer si elle n'a pas ce que j'appellerais de support, si elle n'a pas de d'aide, si elle n'a pas d'accompagnement. C'est comme si vous lâchez un enfant, puis vous lui dites « faites le 100 mètres ». Je ne vois pas comment il peut arriver à faire le 100 mètres s'il n'est pas équipé et s'il n'a pas été préparé. Donc ça, c'est notre lobby. Ça, c'est mon boulot. C'est ma fierté d'apporter à chacun sa manière, sa contribution pour servir l'intérêt de son pays. Donc, cette association va avoir un rôle dans les prochaines années considérable. D'abord, elle va accompagner, elle va aider sur le terrain et dans la réflexion, les décisions qui seront prises sur le plan de la macro-société, c'est-à-dire sur les décisions de politique, comme vous le disiez tout à l'heure, sur quelle stratégie, quelle politique touristique pour le pays. Donc au lieu de faire toujours appel à des experts étrangers qui viennent, j'en fais partie, quand on visite un pays, en 3, 4 jours, 5 jours, on est pressé, on est dépassé par moments par les événements.
Ils sont sur le terrain.
Ils seront sur le terrain, ils sont en relation permanente avec les réseaux, donc ils seront toujours en relation permanente avec la connaissance, le savoir-faire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la première démarche, c'est l'accès aux nouvelles technologies. Alors que l'accès aux nouvelles technologies, quand vous ne pouvez même pas appeler d'une ville à une autre, c'est que vous êtes privé de tout.
Nous étions à Djaniat, nous ne pouvons pas avoir Alger.
Nous sommes compris. Donc, le fait que cette association se met en place, c'est une force indescriptible pour le pays. Parce que ça va nous permettre de poser les vrais problèmes. Sachez que nos pays frères, sur lesquels on peut s'y intéresser, comme la Tunisie, le Maroc ou l'Égypte, ne sont pas dotés de ce type d'association.
Pourtant, tout est basé sur le tourisme. Pourtant, on voit l'Égypte, la Tunisie.
Oui, en 94, dans le cadre d'une initiative qui était sur les enjeux, défis et perspectives de l'hôtellerie tunisienne face aux mutations des clientèles touristiques françaises et européennes, parce que c'était leur marché, il m'avait été demandé, pour des raisons qui sont très, très simples, d'encourager la création d'une association des experts scientifiques du tourisme en Tunisie.
Vous venez de parler, d'évoquer la Tunisie, donc le tourisme en Tunisie. Alors, quel tourisme, nous, on veut? Est-ce que c'est celui de la Tunisie ou de la Grèce? De la Tunisie, où on sait qu'il y a des complexes qui sont interdits aux Tunisiens. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté-là qu'il ne faut pas ignorer, qui peut faire mal. Peut-être c'est de la sensibilité ou de la sensiblerie, comme vous voulez. Mais quel tourisme veut-on pour notre pays?
Si je peux me permettre un petit rectificatif, je crois que le tourisme autochtone en Tunisie n'est pas interdit, bien au contraire.
Oui.
Sachez que depuis quelques années, sur décision politique du chef de l'État, et c'est la raison pour laquelle je reviendrai pour dire que ce secteur d'activité, comme pour le sport, c'est une affaire du chef de l'État.
Oui.
En Tunisie, le président Ben Ali a encouragé les autochtones, avec des tarifications spéciales, des encouragements, à aller dans des établissements hôteliers. Bon, ceci dit, est-ce que c'est bien fait ou mal fait? Ça, c'est un autre débat. Mais pour revenir à cette association qui me paraît, pour moi, sur le plan uniquement de l'expertise...
Alors, comment on l'appelle, cette association?
Association des experts et scientifiques du tourisme en Algérie. Donc, ce sont des Algériens qui sont... Et on va dire quelle est la composante ou la segmentation de cette association. Sachez que, par exemple... En Tunisie, la FES n'a pas voulu soutenir, parce que quand on a vu les gens qui devaient occuper les postes clés, quand je dis les postes clés de cette association, quand on a vu qu'ils n'étaient pas indépendants, nous avons dit, nous ne pouvons pas accompagner.
Donc, pas que ce soit étatique.
Non seulement étatique, mais la personne qui intègre cette association, elle vient pour ses compétences. Elle vient en qualité de citoyen.
Alors, donnez-nous on vous bouscule un peu, monsieur Abdou Belkhed. Donnez-nous justement la composante de cette association Et ensuite, on parlera justement du tourisme. Aujourd'hui, c'est nouveau, tourisme scientifique. En Algérie, quand on parle de tourisme scientifique, et puis après, on se demandera, le tourisme qui aussi fait partie, c'est la première économie, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on en soit là ? Bon, alors, répondez déjà à la composante des...
Alors, la composante de cette association, vous avez des gens du tourisme, vous avez des gens comme le directeur général de l'ONT, vous avez des gens comme le PDG de l'ONAT, M. Belkacmi, le premier cité, M. Sahnoun. Vous avez un grand spécialiste de toutes ces questions, qui est le secrétaire général, M. Kouidrat. Vous avez des gens qui sont des présidents d'autres établissements EGT, notamment, que j'ai eu l'occasion de connaître, avec qui nous avons beaucoup échangé sur les perspectives.
Du secteur public.
Du secteur public. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont leurs compétences. Ce n'est pas le fait qu'il soit directeur général ou bon. Mais vous avez des archéologues. Vous savez que nous avons en Algérie deux femmes docteurs en économie du sport. Deux femmes brillantes en économie du sport. Et des études qui ont été réalisées brillamment en France et qui sont ici. Donc, alors je continue. Vous avez des archéologues. Vous avez des responsables, des directeurs de parcs que nous avons rencontrés à Jeannette.
Oui.
Celui de Tamanne Rasset également, c'est une dame, Madame Faïssa, qui est une des responsables. Donc, vous avez un grand chercheur sismologue. Alors, un sismologue dans le tourisme, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est tout simplement, c'est éviter les plus grosses bêtises que nous avons tous vécues, ne serait-ce qu'en direct à la télévision, sur ce qui s'est passé au Mexique et tout dernièrement en Turquie. Un sismologue doit veiller si demain matin, le chef de l'État décide de donner les moyens d'une véritable politique touristique dans le pays, il y a des zones qu'on doit absolument éviter. Et si nous demandons, et s'il est demandé à ce qu'on ne les évite pas, vous savez, aujourd'hui, il y a des systèmes antisismiques, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous savez, au Japon, on continue à travailler avec des tremblements de terre qui sont quotidiens, je ne dirais pas permanents. Donc, tout ceci, le tourisme aujourd'hui, et pourquoi on parle d'un développement du tourisme durable, c'est qu'on intègre les cultures des hommes et des femmes. On intègre l'environnement, on intègre le marché mondial, on intègre un ensemble de paramètres qui fait que, quand c'est pensé, on ne peut pas se tromper. Et donc, cette association, l'idée, le combat qui est mené, et tous les contacts qui ont été faits, nous ont permis de dire « c'est bon ». Nous avons également quand même la chance, et je l'ai dit, qu'un de nos représentants est le directeur général du Mercure Grand Hôtel. Donc, c'est son devoir, au-delà de sa fonction, c'est son devoir d'expert reconnu, d'apporter sa contribution, et il est dans ses prérogatives de soutenir, d'accompagner le développement d'un tourisme durable algérien, mais qui s'intègre parfaitement, et là, c'est un grand débat, c'est quelque chose de fabuleux, c'est que Madame de Messine, secrétaire d'État, qui a fait donc une visite officielle, première dans l'histoire depuis l'indépendance, de voir un ministre français du tourisme en Algérie, après un lobbying fort, parce qu'il faut pas, elle n'est pas venue uniquement parce qu'il fallait qu'elle vienne, c'est parce qu'il y a un lobbying depuis 2 ans qui pousse derrière pour qu'elle vienne. Et elle a annoncé d'une manière solennelle et officielle une déclaration, ce que j'appelle une déclaration politique, pour dire que l'Algérie est bien dans un cadre d'un développement du tourisme durable euro-méditerranéen.
Alors, parmi les pays, nous sommes classés quand même, nous avons un des plus beaux pays.
Écoutez,
dans le classement, on est combien ?
J'ai raconté ce matin, j'ai raconté cette petite anecdote. J'avais réalisé le premier vol inaugural Paris-Miami sur la compagnie aérienne Aeromexico. Invité par le gouverneur de Floride, parce que ça s'était merveilleusement bien passé, je me suis trouvé dans une conférence internationale, les Américains faisant un lobbying fort pour faire de la plateforme de Miami, notamment Miami Beach, la plateforme stratégique du tourisme international. Et je me suis retrouvé avec une centaine d'experts internationaux qui étaient sur place, pour savoir comment les Américains pouvaient, avec Miami, sachant qu'Orlando se trouvait à côté, la zone la plus importante en matière de tourisme international. Et à un moment donné, Ils ont travaillé sur la classification des pays. Quels sont les plus beaux pays du monde?
Nous en sommes partis.
Madame, si vous savez que j'en étais ému, et je me suis retrouvé à faire une petite conférence de 5 minutes pour présenter rapidement mon pays, donc il fallait tout de suite, par téléphone, obtenir des informations extrêmement précises, l'Algérie fait partie des 10 plus beaux pays du monde.
Parce que nous avons les 3 sites, c'est-à-dire la mer, la montagne et le Grand Sud. Ça fait partie de la beauté, évidemment.
2 400 000 km², 1 200 km de côte, dont la plupart inexploités. Vous avez des vestiges inimaginables, une culture interactive, mais surtout, le plus beau et le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Le Hogar et la chaîne Tassili.
Oui, justement, monsieur Abdoubelghat, c'est vrai qu'on a accumulé beaucoup de retard. Aujourd'hui, longtemps, il a battu de l'aile le tourisme chez nous. Aujourd'hui, la reprise. Est-ce que ça va se faire d'une manière scientifique ou alors ça va pas engendrer des difficultés, des dégâts, tels que quand on parlait de ce parc national qui fait 80 000 km aujourd'hui, avec tout ce que ça pourra. Pour le développement du tourisme, est-ce que ce tourisme scientifique fera attention justement à ces sites qui sont protégés?
Sans parler des dégâts, Malika, vous avez bien raison de le souligner à propos des gazelles. Dernièrement encore, il y a eu des dégâts à propos d'une forme de tourisme qui sont venus chasser la gazelle.
Oui, écoutez, sincèrement, pour moi, ce type d'anecdote, pour moi, ce sont des pilleurs. Je vois en rien, ils ont qu'à mettre un parc chez eux. Acheter des gazelles préfabriquées. Aujourd'hui, vous savez, on fait un système de nonnes.
Mais est-ce que ce tourisme scientifique va suivre, va tenir compte de...
Non, le tourisme scientifique, c'est, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a de l'écologie, il y a de l'environnement, il y a de l'éducation, il y a de la formation, il y a la communication, il y a les nouvelles technologies. C'est un ensemble de facteurs qui fait que, comme c'est la première activité au monde, c'est celle qui crée en plus le plus d'emplois.
Oui.
C'est celle qui permet aux gens de voyager énormément. C'est celle qui oblige les grandes compagnies, par exemple aériennes, d'aller vers de nouvelles technologies pour avoir des avions encore, des porteurs beaucoup plus grands.
Oui.
Ce qui fait que les enjeux sont colossaux. Nous, au niveau algérien, on a, dans le malheur qui a parcouru ces 40 années, et plus précisément les 10 dernières années, nous avons une chance en matière de tourisme exceptionnelle. C'est que l'écosystème a été préservé. Il a été préservé.
Oui.
Je vous fais une petite anecdote. Nous sommes détenteurs d'un rapport scientifique sur la Mauritanie. Nous savons que dans les 10 prochaines années, le désert mauritanien, son écosystème, est mort. C'est tout simple.
En d'autres termes,
c'est que le tourisme de masse, nous les appelons, nous, les nouveaux barbares. Et il y a des lieux où le tourisme de masse n'est pas du tout adapté. Si on prend, à travers cette expérience du marathon de Janet, et je vous donne un petit peu les conclusions qui nous ont conduits à soutenir et à accompagner ce premier marathon international de Janet, c'est qu'il fallait à la fois éduquer, il fallait être présent, et il fallait associer cette notion de tourisme, de sport et de découverte. Vous aviez remarqué que des gens couraient avec laissant le Sahara propre.
Oui.
Vous avez remarqué également la tension très particulière de nos amis et frères Targhi qui veillaient au grain à ce qu'on ne fasse pas du n'importe quoi. Donc, il y a différentes formes de tourisme. L'Algérie a besoin, compte tenu de sa richesse, et je n'invente rien, quand on parle des 10 plus beaux pays, vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez bien entendu la France, l'Italie, l'Espagne, l'Égypte, j'en oublie 2-3 autres, mais l'Algérie fait partie de ces plus beaux pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne me compare pas aux talibans. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au Japon. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Et moi, ce qui se passe, où ça ne me donne pas de référence, ça ne m'apporte rien. Donc le tourisme scientifique peut permettre, dans une bonne réflexion en Algérie, rien que sur le sud, je peux vous citer quelques formes de tourisme et vous allez tout de suite me comprendre.
Oui.
Nous avons le tourisme culturel. Nous avons le tourisme sportif. Nous avons le tourisme romantique. Oui. N'a-t-on pas annoncé à Jeannette que des choses se font d'une manière extraordinaire, parce qu'on est dans un romantisme extraordinaire.
Oui, ben oui, il y a eu 3 demandes en mariage.
Voilà, madame, j'ai rien inventé, ouais. Et vous venez de le dire. Uh-huh. Il y a le tourisme scientifique. Vous savez que être sur le sommet à Tamanrasset, et je comprends pourquoi le père Foucault n'a plus voulu y redescendre, c'est l'un des plus beaux sites en observatoire sur le plan de l'étude des étoiles.
Alors, monsieur Abdou Belghet, il y a danger ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent ?
Bien sûr qu'il y a danger. Si demain matin, on nous dit, ah ça y est, on est dans le tourisme, je leur dis, vous n'êtes en rien du tout. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est gouverner. Si la décision du chef de l'État est d'inscrire ce secteur d'activité qui est porteur, qui est prometteur, surtout pour un pays jeune et beau comme le nôtre, comme une de ses priorités, l'Algérie peut gagner et gagnera. Si c'est pour laisser faire, c'est clair que, quelle que soit la beauté du pays, vous savez, il y a des pays qui sont moins beaux que nous et qui marchent très bien. Si on décide de donner les moyens, et ces moyens, à la limite, on peut y travailler, on peut être de très bons gestionnaires, on peut donner de très bonnes orientations, on peut faire beaucoup de choses dans ce pays dès lors que une intelligence, je dis bien une intelligence, et un grand professionnalisme décident de dire, dans l'intérêt général de ce pays, dans l'intérêt général des femmes et des hommes et de cette jeunesse qui y séjourne, on va faire quelque chose qui peut paraître très bon.
Alors quel est le danger ? C'est-à-dire que le Tassili, qui est classé comme
patrimoine universel.
Universel, mondial, bon c'est ça, universel mondial, ça veut dire qu'un jour il peut être occupé par les
Escadrons. Et alors les Algériens, nous sommes allergiques à ce qui est ingérence. Mais je peux vous certifier une chose avec beaucoup de gravité dans mes propos,
oui.
Que si on ne prend pas des dispositions, ce que je dirais des dispositions basiques,
oui. Okay,
personne ne vous laissera détruire un patrimoine qui a 65 millions d'années. Personne. N'oubliez pas que le Hogar, comme vous venez de le citer, est un patrimoine universel. Nous ne sommes que les gardiens temporaires et temporels de ce grand musée à ciel ouvert. Donc ça veut dire que si nous, on n'est pas capable, et Dieu sait si, vous l'avez vu sur place avec nous à Jeannette, vous avez vu la compétence de cette jeunesse, le directeur du parc national du Tassili, vous avez bien vu, il est archéologue, il est sociologue. Nous avons discuté ensemble, et d'ailleurs il fera partie de cette association des experts, mais c'est sûr que s'il se bagarre seul contre des apparchiks d'un système qui ne correspondent plus à rien, c'est sûr qu'il ne pourra rien avancer du tout. Et je ne voudrais pas, personnellement, comme tout Algérien, voir un jour un casque bleu de la paix venir donner un ordre en disant « oui, parce que nous n'avons pas été capables de préserver ce patrimoine », de nous donner son avis, ses recommandations, par écrit au besoin est-il.
Alors, monsieur Abdou Belghet, il y a quand même de l'optimisme. Vous qui approchez, bon, vous vivez en France, mais vous venez très très souvent ici en Algérie. Est-ce que vous avez senti une volonté aujourd'hui au niveau des politiques d'un changement ?
Sans citer Platon, la politique c'est fait tous les matins. Quand on se lève, on peut faire de la politique. Nous, ce qui nous intéresse, du moins ceux qui m'intéressent, mon combat se situe sur le plan du sport, sur le plan du tourisme et sur le plan de la communication. Je suis quelqu'un qui est fondamentalement optimiste, qui croit très fort, vraiment qui croit très fort, dans les capacités de notre pays, dès lors qu'on aurait permis à notre jeunesse notamment, de lui offrir un cadre ambitieux. Si, je dis bien, le chef de l'État, qui est le capitaine d'équipe, c'est le commandant du bateau, il décide de dire « j'intègre dans ma stratégie politique de développement, après tout c'est lui qui décide de la politique à donner au pays, ce secteur d'activité, nous sommes gagnants. » Je suis profondément convaincu que l'Algérie est capable de surmonter et de gagner tous ces défis, d'autant que j'expliquais le pourquoi et le comment. Elle a un pays extraordinaire, elle peut se doter d'outils performants, elle peut rassembler des femmes et des hommes compétents dans leur secteur d'activité. Donc on peut dire qu'on est armé pour gagner. Mais s'il n'y a pas de politique clairement définie, si on ne donne pas les moyens à cette politique clairement définie,
bah, est-ce que vous avez senti un changement, une prise de conscience?
Oui, sincèrement.
Ah, d'accord.
Oui, moi, c'était en tant que sociologue que je voulais un peu demander à M. Belguet, et non pas en tant qu'investisseur et professionnel du tourisme, mais en tant que sociologue, quel regard portez-vous sur l'avenir de ce loisir? Le tourisme est loisir, qui est un pur produit de toute façon commercial, qu'il soit culturel, qu'il soit sportif. À la base, c'est un produit... commercial.
Moi,
en tant que sociologue.
Oui, produit commercial, oui. Mais sur le plan du tourisme, on n'y affecte pas ça. Si vous prenez le Code mondial de l'éthique, vous vous apercevez que l'article 16 est très clair. Il parle du droit au tourisme. Du droit au tourisme. Ça veut dire que Montaigne n'a rien inventé quand il disait « les voyages forment la jeunesse ». Vous savez que le premier à employer le mot « tourisme », ça a été Stendhal.
Mais vous êtes bien, Coubertin également pour les Jeux Olympiques,
tout à fait,
disait
tout à
qu'il
fait.
Ne devait pas être commercial, et on sait que les Jeux Olympiques...
Non, tout à fait. Non, mais il y a deux aspects. Il y a ce côté, finalement, qui est, vous savez que l'une des plus grosses industries au monde est le sport. Et vous savez, pour vous donner quelques chiffres,
déjà, oui.
Le football représente 200 milliards de dollars. C'est ce qui articule autour de la FIFA et 250 millions de gens qui font du sport, enfin du football notamment. Ce qui est important au niveau du tourisme d'une manière générale, c'est qu'aujourd'hui, c'est un bien-être. C'est l'accès à l'échange, l'accès à la connaissance.
Et la merveille aussi, parce que économiquement,
pour
beaucoup de gens, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, on les a vus dans le Sud ces 10 dernières années. Un tourisme pas organisé, mais depuis que le tourisme a cessé, sur le plan... économique, c'est vraiment la misère pour eux. Hein, ça
ne veut
pas
dire
avoir été.
Mais bien sûr.
Alors, M. Belguet, tu es sûr que quand on invite comme ça, on est toujours frustré parce qu'on aurait tellement aimé vous poser des questions sur beaucoup de domaines. On sait que combien c'est vaste. Alors, quand même, il faut retenir une chose, c'est que vous êtes arrivé, puis il y a une association maintenant qui est mise en place. C'est un acquis, ça.
Oui, c'est un acquis, mais c'est déjà une approche extrêmement constructive et positive. Oui. Mais si vous permettez, pour reprendre un petit peu ce que vous aviez dit tout à l'heure, oui, j'ai senti très fort une volonté de bien faire et de mieux faire. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de dire bravo à qui que ce soit. Après tout, chacun fait son boulot dans son secteur d'activité. Mmh. Il m'est arrivé de rencontrer très longuement le ministre du Tourisme, M. Dorbani, qui n'est pas un spécialiste du tourisme. Mais c'est un monsieur qui a su écouter, qui a su comprendre. Lorsqu'au bout de 50 minutes, après 50 minutes de débat, nous avons présenté ce que représentait la symbolique, par exemple, du marathon de Janet, il a compris qu'il fallait accompagner cette initiative privée. Donc, il y a aujourd'hui, à mon avis, une vraie prise de conscience, mais le plus important, c'est quels sont les moyens que l'on peut donner à cette prise de conscience, comme vous l'avez dit si bien, et c'est ma conclusion, que d'une ville à une autre, on est coupé du monde.
Merci. Now the mirror.
également le plaisir de recevoir Monsieur François Sauvageau, qui est directeur général du Mercure Grand Hôtel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec Monsieur Abdou Belguet, nous avons beaucoup parlé de l'association des experts et scientifiques du tourisme en Algérie. Vous êtes donc mandaté par la FEST pour la préparation de cette association. Alors, et puis on parlera donc de l'ambition du groupe Accor en Algérie.
Alors, oui, bien sûr.
Deux questions, répondez par celle que vous voulez.
Mais écoutez, d'abord, j'ai membre de la FEST depuis quelques années, donc j'ai été mandaté par le conseil d'administration de la FEST, donc de représenter cette association donc en Algérie. Ce qui est important parce que c'est
la première du genre, comme dirait.
Absolument,
comme
c'est la première du genre, donc en tout cas dans le Maghreb. Et donc, pour moi, c'est un honneur, bien sûr, de représenter cette association. Et donc, l'objectif est de créer, si vous voulez, l'association des experts et scientifiques du tourisme, donc en Algérie. Et donc, nous sommes en train actuellement de travailler sur la composition et la formation de cette association.
Ouais. Alors, Monsieur Sauvageau, vous êtes quelle est l'ambition du groupe Accor en Algérie? On sait qu'il y a deux hôtels.
Alors, nous sommes en Algérie par le biais donc de l'hôtel Sofitel, qui a ouvert en 1991, qui a été ouvert donc juste avant ce qu'on pourrait dire la période un peu difficile,
oui.
Que traverse l'Algérie. Mais malgré ces événements, nous sommes restés présents parce que nous avons rencontré, surtout ici, des amis algériens qui donc nous ont aidés à rester, ils nous ont demandé de rester. C'est une histoire d'amitié, si vous voulez, maintenant, après 10 ans, entre des personnes qui se sont appréciées, qui ont eu le temps de se découvrir, et c'est une question de confiance. Donc nous sommes là, Sofitel a fait ses preuves. Sofitel est un hôtel qui est maintenant connu. Et puis l'opportunité aujourd'hui, c'est l'ouverture du Grand Hôtel Mercure, qui arrive donc une dizaine d'années après, qui renforce l'image d'Accor en Algérie. Et nous avons bien sûr beaucoup de projets. L'idée étant, dans un premier temps, de développer les marques du groupe Accor dans la capitale, puisque la capitale, par essence, c'est la vitrine, si vous voulez,
oui.
Du pays. Donc nous avons l'intention de développer nos marques, c'est-à-dire Sofitel, les marques fortes du groupe, Sofitel, bien sûr, Mercure, Novotel et la chaîne 2 étoiles Ibis.
À propos donc justement de l'hôtel Mercure, l'inauguration, c'est pour quand? Est-ce que vous avez une date?
Alors, ce que nous avons fait, je pense que nous avons été sages, c'est-à-dire nous avons fait ce qu'on appelle en termes hôteliers un soft opening,
oui.
C'est-à-dire une ouverture douce.
Oui.
On va dire ça en termes en traduisant, c'est-à-dire que nous avons
qui va doucement, va sûrement.
Ouais, exactement. Qui va piano, va sano,
voilà,
qui va sano,
oui.
Va lontano. Hein. Bon, c'est-à-dire que nous avons ouvert doucement, c'était un produit que l'on ne connaissait pas, qui était implanté dans une zone aéroportuaire,
oui.
en pleine, je dirais, qui est en train de se développer. Donc on vise, si vous voulez, à 5 ans.
Oui.
L'hôtel est beau, l'hôtel est devenu bien implanté dans le cadre hôtelier d'Alger. Nous avons, et ça c'est une, et j'en suis très fier d'ailleurs, nous avons ouvert cet hôtel en 3 mois, un hôtel de 300 chambres,
oui.
Donc c'est quand même un gros bateau, si vous voulez. Et nous avons recruté nos collaborateurs en un mois et nous les avons formés.
Oui, c'est votre particularité.
Et j'en suis très fier.
C'est la formation de...
Oui, et c'est l'accent sur lequel nous portons nos efforts aujourd'hui, c'est la formation. Et nous sommes
oui.
là pour ça.
Oui.
Donc nous avons 300 collaborateurs qui travaillent dans l'hôtel, qui pour la plupart ne savaient pas du tout ce qu'était le milieu hôtelier.
Oui. Pour un directeur, c'est très, très, très humble de parler de collaborateurs.
Oui, non, ça me paraît naturel.
Ah,
en tout cas, c'est dans l'esprit Accor.
D'accord.
Hein, c'est dans l'esprit Accor. nous sommes des accompagnateurs, si vous voulez.
Uh-huh.
Et vous savez, l'humain, quand vous le positionnez, vous lui donnez les moyens de travailler et vous le motivez, il est capable de faire des choses extraordinaires. Mmh. Et c'est ce qui est en train de se prouver aujourd'hui.
Mmh. Donc, on ne peut pas donner de date à propos de l'inauguration.
Alors, nous envisageons l'inauguration fin mai, début juin, au beau jour. Puis après, c'est une question de calendrier. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent se libérer, pas d'autres. Nous avons l'intention de faire des choses grandioses.
Mmh.
Et nous avons pour cela confié, si vous voulez, la préparation de cette inauguration donc à ABF Communication Internationale, BF Communication Internationale, qui, par le biais justement de son aura internationale, qui mieux que qu'eux peuvent communiquer le nom Accor et l'Algérie et promouvoir l'Algérie à l'étranger.
Alors une question personnelle, Monsieur Sauvageau, on sait que le tourisme a battu de l'aile depuis de longues années. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les choses
oui, je pense que
reprennent
oui, les choses. Moi, je suis très optimiste. Si vous pensez bien, on ne serait pas là. Hein.
Oui.
Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut être patient. Il faut le faire par étapes. On ne peut pas être partout à la fois. Il faut le faire. Il faut bien sûr promouvoir l'Algérie. Il faut repositionner l'Algérie dans son contexte touristique international. Et là, il y a beaucoup à faire. C'est l'image. Hein. Donc, les choses vont se faire petit à petit avec des gens de bonne volonté. Et je pense qu'il faut. Et effectivement, et c'est la raison pour laquelle nous parlons de. Nous sommes là, la FEST, c'est le faire d'une manière. Associer les experts au développement du tourisme. On ne peut pas le faire sans eux.
Voilà. Alors, monsieur François Sauvageau, je rappelle à nos amis auditeurs que vous êtes directeur général du Mercure Grand Hôtel, que vous êtes donc mandaté pour la préparation de l'association des experts et scientifiques du tourisme en Algérie, qui est la première du genre, comme vient de nous dire notre ami monsieur Abdou Belguet. Moi, je vous invite dans quelques semaines pour que vous nous en parliez plus amplement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis que Dieu vous garde.
Merci. Desert scream.